Mais moi, je suis devenu un géant pour ma mère, qui était une grande femme, et qui, quand elle est morte, tenait dans une petite boîte, elle est morte à 86 ans. Parce que le vieillard se réduit, et à ce moment-là, c'est le fils qui semble un géant. Et puis, il y avait la sorcière, au Croisic, qui habite pas très loin de chez nous, il y avait la fée. Il y avait les bonnes fées, il y avait ma mère, évidemment, quand elle venait me voir, puis il y avait la bonne sœur plus tard, dans l'école où je suis allé, au Croisic, pendant un an. Il y avait des mythes qui vivaient parmi ces dieux. Et j'étais très heureux parmi eux, même s'ils me faisaient un peu peur, comme le géant ou le vent. Parce qu'ils étaient grands, parce que ça donne à l'homme, à l'enfant plutôt, le sentiment de la grandeur. Ça le met à la mesure de l'univers. Je vais vous dire à quel point ça me met à la mesure de l'univers. Ça, c'est une chose que j'ai redécouverte aussi récemment dans mes promenades. Et ça, c'est important parce que ça va commencer une sorte de jeu géométrique que je vais mener là-dedans. Et vous, quand on va se promener, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on se promène sur un champ, un chat dans un chemin. Là, je vais dans ce sens-là, ça peut être dans l'autre, mais non, pas dans ce sens-là. Vous avez des choses qui sont à côté de vous. Les choses qui sont à côté de vous, elles disparaissent derrière votre dos. Elles disparaissent derrière votre dos. Avant, c'est ce qui est là, tombe. Et quand vous avancez dans la vie, c'est la même chose. Vous perdez des amis. Vous perdez des parents, vous perdez des joies, vous perdez des amours, vous perdez des plaisirs. Tout s'en va à l'envers de vous. Vous avancez contre cette perte. Mais ce qui est au loin, l'horizon, si vous voulez, va dans le même sens. Vous continuez vers le même horizon. Il va avec vous, dans le même sens. Il va dans le même sens. C'est-à-dire que quand vous vous promenez, vous êtes en réalité entre deux cercles. Vous êtes entre deux cercles, dont l'un tourne tout comme les aiguilles d'une montre, et dont l'autre tourne dans le sens inverse. Non, on tourne au contraire dans le même sens. Les deux tournent dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ça, c'est ce que j'appelle être dans le...
Dans l'univers réel. C'est ce que j'appelle être dans la réalité.
C'est une réalité que les sciences ensuite vont essayer de fragmenter, vont essayer d'expliquer. Il va y avoir des explications, il va y avoir des constantes, des variantes mathématiques
pour expliquer ça.
Mais l'impression est brutale, elle est forte. Et l'enfant le saisit beaucoup mieux que l'adulte.
Parce que l'adulte, il sait plus où il va, lui. Il est trop occupé de l'argent qu'il va gagner le soir ou de la dernière querelle qu'il a eue avec sa femme. Il ne regarde pas ce qu'il y a autour de lui. Mais l'enfant vit dans ce qui existe. Et le vieillard aussi.
Or, ce monde, je l'ai quitté quand j'avais 5 ans. Parce que j'étais élevé par mes grands-parents.
Parce que mon père était tuberculeux, c'était Amadi à la mode à ce moment-là, comme le sida aujourd'hui. Et on criait une contagion pour la même raison d'ailleurs. Donc il ne fallait pas que je sois élevé dans le même milieu que mon père. Et c'est pourquoi mes parents m'ont pris qu'à 5 ans, lorsque mon père était guéri. Et ça a été quoi? Ça a été l'arrachement au paradis vert, ça a été l'exil. J'ai été chassé de l'Éden, exactement comme Adam est chassé de l'Éden, Adam et Ève sont chassés de l'Éden. Et Garpo, puisque peu à peu je m'identifiais à Garpo dans mon journal, et Garpo a quitté aussi les campagnes américaines de Richmond, ce paradis vert, pour aller à Londres. Et ses parents vont l'emmener à Londres, ils veulent y être très malheureux dans des lycées, dans des boîtes, dans des collèges. Donc il y a bien dans les deux cas, et il se donnera d'autres exemples, si vous voulez, du colonel Laurence et puis à d'autres écrivains, poètes, artistes. Il y a toujours cette rupture, et maintenant je sais que c'est vrai de la plupart des hommes, c'est vrai de vous-même déjà sans doute. Déjà vous-même, vous n'avez peut-être pas conscience, mais plus vous vieillirez, plus vous aurez conscience d'une rupture dans votre enfance. Il y a eu un moment, mais très marqué, où vous avez quitté l'Éden. Généralement, d'ailleurs, c'est comme moi, vous êtes passé de la campagne à la ville. Et vous avez perdu le sens de la réalité, des animaux, des plantes, des fleurs, de l'amour, le sentiment violent, vif, pour ce monde qu'on essaie, où on essaie de vous imposer de vivre. Or, vous quittez, ce faisant, vous quittez le non-dit, c'est-à-dire l'infini possible de l'enfance, pour entrer dans les dits, dans les discours adultes. À partir de là, on va commencer de vous imposer l'idée que vous n'existez pas, que vous n'êtes rien du tout, et que ce qui va faire de vous des hommes et des femmes, c'est ce qu'on va vous apprendre, la grammaire, les mathématiques, le solfège, etc. Garpeau et moi, nous avons énormément souffert de ce truc. Énormément. Et en réalité, elle est un changement de couleur. Et ça, c'est important. Elle est un changement de couleur. On est passé. Il y a eu le bleu de l'avant-naissance, le monde des anges, le bébé ange. Et puis, il y a eu le vert de la première enfance. Et là, on arrive à l'orange et au jaune. On arrive au jaune et Saint-Nazaire, où j'étais à ce moment-là transporté. Saint-Nazaire, c'était la ville du jaune. Ville argileuse, limoneuse. Les cours et collèges étaient, on s'embourbait dans cette argile. L'eau de la Loire, qui j'étais devant l'embouchure de la Loire, ça n'avait plus rien à voir avec le bleu de la mer de Croisic, c'était aussi argileux et cipselé, encore plus aujourd'hui, bien sûr, qu'à l'époque, mais enfin, ça l'était déjà pas mal. Et je dirais que les sentiments même des gens qui m'entouraient en 1925, c'était des sentiments jaunes. Il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas d'idéal, il y avait une misère assez constante, mais pas la misère, on parle toujours les médias aujourd'hui quand on vous parle des pays sous-développés ou des choix, une misère presque plus terrible parce que c'était la misère d'à peu près tout le monde. À Saint-Nazaire, il y avait 3 ou 4 personnes. Il y avait le notaire de la famille, il y avait le directeur des nouvelles galeries, il y avait le patron de mon père qui vivait dans quelque chose qu'on pouvait appeler une grande bourgeoisie, une petite bourgeoisie plutôt. Mais tous les autres, les employés, les ouvriers, les commerçants, ils vivaient une vie larvaire. Ils vivaient dans la peur. Cette vie est atroce. J'ai été misérable dans ma vie, très souvent. Très souvent, j'ai vécu sous la tente. Et Cévennes, avec ma femme, et nous étions heureux, nous étions terriblement heureux. Mais cette pauvreté dont je parlais, pire, bien pire que la misère, c'est quelque chose, bien sûr que vous le connaissez, ou vos parents l'ont connu, vous savez ce que je veux dire. Au marché, ben, il faut prendre quelquefois la salade la moins belle, un petit peu flétrie. Le poisson qui sent un petit peu, la viande un petit peu veinée de violet parce que ça sera moins cher. On vous fera la boucher ou le poissonnier vous feront moins de recours. On porte le même vêtement pendant des années et des années. Ma mère a porté un manteau noir et puis mon père avait toujours le même tout est connu pendant 10 ans, il avait le même complet du vivant. Alors ça c'est quelque chose d'effrayant parce que je dis c'est un monde sans espoir. Et c'est un monde tellement sans espoir que ce que haïssait le nazérien, et ce que haïssent encore beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, parce que les médias les y portent d'ailleurs, c'est la peur de l'esclave. et la honte et le mépris de l'esclave. Nous, on ne sera jamais des esclaves. Ça, la preuve que Rome, c'est horrible, c'est qu'il y avait, des esclaves. La preuve que le temps du 18e est horrible, c'est qu'il y avait des esclaves. Ne pas être esclave, voilà le vraiment le but de leur vie. Or, qu'est-ce que c'était que l'esclave? C'était quelqu'un qui n'avait pas à se préoccuper de tous ses petits problèmes quotidiens, qui n'était pas misérable. À Rome, il pouvait être affranchi et il était, pouvait être que commerçant, il pouvait. Beaucoup ont été de grands poètes ou de grands écrivains. Épictète était un esclave, Pion était un esclave. Gauze, les premiers bouddhistes indiens étaient des esclaves. L'esclave pouvait s'échapper de son milieu s'il avait quelque chose là, ou s'il était équilibré, s'il était, je dirais, peut-être assez intelligent, enfin peu importe pour quelle raison, peut-être simplement docile. Il pouvait être affranchi, on pouvait l'arracher, il pouvait écrire des œuvres, on pouvait l'écouter, il pouvait donner des cours. Le recteur à Rome, c'est-à-dire le professeur, était un esclave. C'est un esclave que son éducation, que son intelligence avait porté à enseigner les enfants du maître plutôt qu'à laver le plancher. Mais malgré tout, il ne savait pas ce que c'était justement que l'esclavage. Cet aspect de l'esclave, il l'ignorait complètement. C'était le mot qui leur faisait peur. Et surtout, ce qui leur faisait peur, c'était le dépassement. C'était l'exception. C'était l'anormalité. Et voyez-vous, à ce point de mon journal, parce que toujours suivi un peu, suivant l'œuvre de Guerpeau, j'en étais amené à me demander qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal, selon votre question. Et ça, c'est une question très importante et ça vaut la peine d'y réfléchir. Pendant longtemps, c'est seulement au siècle dernier, ou peut-être au 18e qu'on a commencé à se poser la question. Mettons, la mécanique de Descartes commence à poser un peu la question. Jusque-là, on ne s'est pas tellement posé la question de savoir quelle était la différence entre l'animal et l'homme. Hein. Soit il n'y en avait pas, soit les animaux étaient des dieux, des mythes, des symboles, soit c'était des choses qu'on utilisait, des objets, des outils, mais enfin, on ne se posait pas trop la question, c'est seulement depuis 2 ou 3 siècles qu'on se posait la question. C'est-à-dire avec le rationalisme actuel qu'on se pose. Et on a d'abord répondu, eh bien c'est la main. C'est la main, voyez-vous, l'homme a une main, il peut se servir, l'animal n'a pas de main, voilà la différence. Enfin, il ne faut pas avoir beaucoup regardé les animaux pour dire ça. Parce que, d'abord, il y a des animaux qui ont des mains, les singes, et puis il y a des animaux qui n'ont pas besoin de main pour faire leur maison, les castors, pour faire leur nid, les oiseaux. L'animal prend ce qu'il a besoin de prendre. Il prend sa nourriture avec les dents au bec, il prend son petit, il porte son petit sur son dos dans son ventre, mais il le prend donc pour le mettre dans son ventre ou sur son dos. En réalité, que l'animal est une main qui n'est pas de main, il ne cesse de toucher, de prendre comme l'homme. La grande différence entre l'homme et l'animal ne peut pas être la main.